Nous recevons cette semaine dans les carnets l'économiste Cécile Philippe. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous dirigez l'Institut économique Molinari et vous participez également au débat public. La preuve en est le livre que j'ai sous les yeux. Trop tard pour la France, point d'interrogation, sous-titre « Osons remettre l'État à sa place ». Un essai qui vient de paraître aux éditions Manitoba Les Belles Lettres. Ce livre est un essai d'humeur et d'analyse de la situation de notre beau pays, mais il est aussi nourri de références à la théorie économique. Et je vous propose, Cécile Philippe, de commencer par là. Pourquoi jugez-vous utile de citer en exemple à plusieurs reprises dans votre livre le prix Nobel d'économie Friedrich Hayek et plus largement l'école d'économie autrichienne?
Alors c'est vrai qu'effectivement c'est une école à laquelle je fais énormément référence, et notamment parce que je m'intéresse dans ce livre à la crise financière et monétaire, c'est-à-dire que j'y reviens dans un certain nombre de chapitres. Et il faut quand même savoir que l'école d'économie autrichienne s'est énormément intéressée à cette question, et en particulier Friedrich Hayek, qui a eu son prix Nobel d'économie effectivement en 1974. Pour son apport sur le cycle économique. Et juste pour ajouter, autrichien, pourquoi? Parce qu'ils sont tous originellement d'origine autrichienne, le fameux cercle de Vienne, fin du 19e, début 20e, et puis ensuite, ils se sont exilés aux États-Unis, ils étaient pour la plupart juifs, et donc ils ont dû quitter cette partie du monde pour aller trouver refuge aux États-Unis. Et donc l'école autrichienne est très vivante aux États-Unis, un peu moins en France, mais en tout cas, elle est très importante.
Alors, moins vivante en France, souvent ignorée, voire méprisée, parce que ce sont Friedrich Hayek et donc cette école de Vienne, des économistes dont on a plus souvent trouvé le nom dans l'entourage de Reagan ou de Thatcher, au grand moment de la révolution néolibérale, fin des années 70, début des années 80.
Oui, curieusement, parce que effectivement, Ronald Reagan ou Margaret Thatcher n'ont absolument pas mis en œuvre les théories sur le cycle économique, puisqu'en fait, de quoi s'agit-il exactement? C'est de revenir à deux choses très importantes. C'est la monnaie qui est au cœur du développement économique, qui est au cœur de la division du travail. Sans monnaie, en fait, on a du mal à échanger.
Et l'intérêt primordial de la politique monétaire.
Ouais,
et d'être responsable dans cette politique.
Voilà, exactement. Or, justement, eux insistent sur le fait que la monnaie, quand elle est bien gérée, elle favorise le développement économique, la prospérité et les échanges. Par contre, quand on s'amuse à la manipuler dans tous les sens, et en particulier par manipulation, j'entends création monétaire avec excès, eh bien, on a ce qu'on appelle le fameux cycle économique, c'est-à-dire les bulles qui finissent par éclater et donner ces fameuses crises financières. Et pourquoi c'est d'actualité? Parce que je pense que nous, on n'est absolument pas sorti de la crise de 2008. On le voit bien, parce que de toute façon, la croissance est en berne, le taux de chômage continue à augmenter, donc on n'arrive pas vraiment à sortir de cette crise. Et surtout, le phénomène le plus intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas assisté depuis 2008 à ce qu'on appelle du désendettement. Et c'est la cause, en fait, la dette, l'excès de dette est à l'origine de ces fameuses crises financières. Et je crains que, à force d'avoir voulu encore injecter des liquidités dans notre système, eh bien finalement, on est renourri et continuer à nourrir en fait ces fameuses bulles économiques, et que la prochaine pourrait bien arriver.
Vous dites, Cécile Philippe, dans votre ouvrage, que la politique menée actuellement, et notamment par les banques centrales,
absolument,
par toutes les grandes banques centrales, est hautement toxique.
Elle est hautement toxique, et d'ailleurs, regardez ce que les dernières déclarations de Mario Draghi, de la banque centrale du Japon, qui vient d'annoncer effectivement des nouvelles injections monétaires extrêmes. Donc il y a fort à craindre, en particulier dans les marchés émergents, où on voit effectivement les bulles qui se sont regonflées.
Alors Cécile Philippe, allons directement au cœur du débat.
Oui.
Vous jetez un pavé dans le débat économique du moment avec ce livre qui paraît aux éditions Manitoba Les Belles Lettres, « Trop tard pour la France, osons remettre l'État à sa place ». Pour le dire vite, pour vous, en France, l'État n'est pas la solution, c'est plutôt le problème.
Oui, je pense que ça l'est devenu, effectivement, c'est une thèse du livre. J'essaye de revenir sur ce constat que, effectivement, en France, la croissance est en berne, le taux de chômage augmente, les investissements ont du mal à reprendre, etc. Mais par contre, la sphère publique se porte extrêmement bien. Elle est même, je dirais, omnipotente. Et donc, je m'interroge, évidemment, sur le lien qu'il pourrait y avoir entre croissance économique et croissance de l'État. Effectivement, je veux aussi revenir en même temps sur une croissance qui me semble profondément ancrée chez les Français, à savoir qu'on vit l'ère du capitalisme triomphant,
ou l'ère du libéralisme, débridé.
Etc. Effectivement, même quand on parle de politique d'austérité, vous savez, on nous dit que finalement l'austérité, elle remonterait aux années 70. Et ce que j'avais envie de dire dans ce livre et de montrer à travers des chiffres et des données empiriques, c'est de dire, mais attendez, est-ce que vous savez qu'au début du XXe siècle, les dépenses publiques représentaient seulement 10% du PIB, aujourd'hui elles représentent 57%, et on a passé la barre qui me semble absolument symbolique des 50% dans les années 80. C'est-à-dire que depuis les années 80, la sphère publique est plus importante en pourcentage du PIB que la sphère privée. Et donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que progressivement, vous avez des choix publics qui se sont substitués aux choix privés. En gros, la sphère privée se réduit progressivement, je vais pas dire à peau de chagrin, mais enfin, elle se réduit extrêmement.
Alors Cécile Philippe, du coup, votre analyse s'inscrit dans un discours qui est radicalement anti-keynésien, alors que l'école keynésienne se porte, elle, bien aussi en France. Et pour vous, il y a besoin du marché libre, vous en faites même une sorte d'apologie.
Oui, de l'échange, oui, absolument.
Pour solutionner les problèmes que traverse notre pays.
Voilà, j'ai envie de rendre la chose même un peu plus large, c'est-à-dire que vous avez raison, l'échange, le marché libre, mais en fait, dans le marché libre, souvent, on a une vision un peu restreinte de cette notion, parce que le marché libre, ça veut dire les échanges volontaires, en fait. Parce que, vous voyez, au fur et à mesure que la sphère publique augmente, finalement, elle a rendu toutes les autres institutions, j'ai envie de dire concurrentes, elle a rendu leur vie et leur survie difficile. Et par institutions concurrentes, j'entends pas simplement le marché avec ses prix, ses profits, ses pertes, mais c'est aussi les coopératives, c'est aussi les associations, la famille évidemment, les entreprises, on l'a dit. Mais c'est, vous voyez, c'est les syndicats, c'est tout un ensemble de structures qui façonnent ce qu'on pourrait dire la société civile, mais qui participent à l'échange et à l'échange volontaire. Et c'est dans ces échanges que, et c'est aussi dans la multiplication des structures, des institutions, dans la concurrence qu'elles peuvent se faire, qu'on trouve en fait les véritables sources du développement économique, de la prospérité, du bien-être.
Et vous savez, Cécile Philippe, que dans l'imaginaire français, le marché libre, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Le marché libre, c'est le déchaînement de la violence.
Oui, mais c'est parce qu'il y a, une idée fausse à propos du marché libre, parce que c'est effectivement le renard dans le poulailler quand il n'y a aucun droit de propriété défini correctement, quand il n'y a pas de responsabilité associée à ces droits de propriété. Mais à partir du moment où vous avez un cadre qui est défini et qui, je veux dire, oblige à respecter les droits de propriété des uns et des autres, vous avez une véritable incitation à la responsabilité individuelle.
Donc pour vous, la mère de toutes les réformes, c'est la baisse de la dépense publique?
Je pense, oui.
Arrêtons-nous aujourd'hui sur un thème d'actualité qui est l'objet du 6e chapitre de votre livre. Mmh. La santé, ce chapitre est intitulé « Santé, une priorité qui manque de concurrence ». Alors c'est un thème d'actualité car les parlementaires sont en train de mettre la dernière main au projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2015, sur fond d'habituels déficits et de mobilisation d'ailleurs des professionnels de santé. Cécile Philippe, l'économiste que vous êtes, établit quel diagnostic sur le système de santé français?
Alors, j'établis le diagnostic suivant, à savoir que finalement, notre système de santé reste d'une très bonne qualité. Par contre, il est très coûteux. Et pourquoi il est très coûteux? Parce qu'en fait, on a instauré en 1946 un monopole de l'assurance maladie pour toutes sortes de raisons. Mais finalement, il y a énormément d'effets pervers dans ce système parce qu'on a associé, parce qu'on a décidé de faire ce choix de mode de financement. Je pense que c'est nécessaire à ce stade de comprendre qu'en fait, en France, on a donc une sphère publique extrêmement importante et que ça se concrétise par une gestion publique plutôt que privé, de tous les risques qui sont santé, retraite, chômage et même technologique et le principe de précaution. La protection sociale en France avec la maladie, c'est quand même 33% du PIB. Donc vous voyez, on est dans des montants qui sont très importants. Alors pourquoi s'intéresser à la santé? Parce que, un, c'est un sujet extrêmement important, la santé des gens. Et deux, parce que je pense véritablement qu'on peut maintenir et voire même améliorer la qualité de notre système tout en songeant, tout en envisageant de modifier son mode de financement. Et pourquoi le modifier? Parce que justement, il manque
par l'ouverture à la concurrence.
Exactement. Et sachez que je ne suis pas la seule, parce que ce sujet, effectivement, il a parlé de concurrence en santé, ça semble complètement fou, c'est encore Marisol Touraine qui disait non, la santé n'est pas
un
bien économique.
On imagine une hausse des prix des soins.
Et on imagine tout de suite la hausse des prix, effectivement, mais sachez que je ne suis pas la seule, puisque le prix Nobel d'économie de cette année français, Jean Tirole, a publié pour le Conseil d'analyse économique un papier, Refonder l'assurance maladie, dans lequel il parle justement de mettre en fait les assureurs...
Donc ce n'est pas qu'un choix idéologique pour vous,
Cécile. C'est un choix absolument économique avant tout, hein, c'est-à-dire économique d'efficacité.
Parce que pour vous, à l'heure actuelle, vous parlez même de dérive bureaucratique du système de santé,
exactement.
Qui a masqué la réalité des coûts et des prix. Donc nous ne sommes plus en mesure de faire des choix éclairés dans notre politique de
c'est
santé.
C'est ce que j'explique, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, ils sont prisonniers, en fait. Ils sont pris en otage de tous les intervenants dans le système de santé parce qu'en fait, ils n'ont aucun moyen de savoir si une prestation est payée au prix juste, si les patients veulent une prestation en priorité. Et finalement, ils agissent en fonction des modes et des lobbies, hein, ni plus ni moins. Et quand vous voyez, et donc, progressivement, ils bureaucratisent notre système, entre guillemets, ça veut dire ils l'étatisent. Or, si on observe ce qui se passe dans les pays comme le Canada ou comme...
Comparaison
internationale, puisqu'on s'est intéressé au cas du Royaume-Uni et du Canada, qui ont deux systèmes complètement étatisés en santé. Sachez qu'en 2005, la Cour suprême du Canada reconnaissait quand même que leur système de santé publique donnait la possibilité de mourir sur des files d'attente au Canada. Vous voyez, ils l'ont reconnu en 2005 parce qu'en fait, le système n'est pas capable d'envisager un rationnement autre que par les files d'attente. Donc, la chance que vous avez, c'est de vous retrouver sur des files d'attente. Et on voit déjà en France apparaître ces files d'attente. Donc, c'est pas ce qu'on veut en France. On veut garder un système avec la qualité de soins qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'elle est en partie fondée sur les piliers libéraux et les différents acteurs qu'on a. Et effectivement, pouvoir baisser les coûts. Mais dans ce cas-là, il faut une concurrence. Il faut qu'il y ait des prix.
Trop tard pour la France, osons remettre l'État à sa place. Un essai publié par les éditions Manitoba Les Belles Lettres. Dans ce livre, que nous discutons ensemble depuis lundi, nous avons vu que vous faites appel à l'histoire des théories économiques, mais aussi à des comparaisons internationales. Vous revenez notamment à plusieurs reprises au fil de l'ouvrage sur l'histoire récente du Canada.
Absolument.
Alors pourquoi le Canada semble-t-il trouver, particulièrement grâce à vos yeux, Cécile Philippe ?
Pour deux choses. C'est d'abord qu'ils ont réussi à faire une réforme de leur politique publique et de leurs finances publiques dans les années 90 qui est probablement sans précédent dans les pays développés. Et puis aussi parce que quand vous regardez les sondages World Gallup, etc., finalement les Canadiens apparaissent comme un des peuples se disant les plus heureux au monde, là, récemment, dans les toutes dernières années. Donc, finalement, on se dit, bon, chez nous, on a ce grand débat sur la baisse des dépenses publiques, l'austérité, qui serait une catastrophe.
Qui nous rend très malheureux.
Qui nous rendrait, oui, qui va nous rendre très malheureux. Bon, on l'est déjà depuis un moment en France, quand même, j'ai l'impression. Et je me disais, mais non, parce que finalement, il n'y a pas de lien évident entre baisse des dépenses publiques et bonheur, et au contraire...
Alors, rentrons dans les faits, justement.
Exactement.
Ce qui s'est passé au Canada au milieu des années 90.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le milieu des années 90, ils engagent des grandes réformes. Sachez qu'il a fallu 20 ans pour arriver à créer un consensus autour de ces réformes, parce que au début, on avait les mêmes débats qu'en France, là-bas.
Déficit public élevé, endettement.
Et endettement très élevé. Et au début... Face à ces challenges, face à ces défis, eh bien la question c'était on va mener des politiques de relance, vous voyez les politiques keynésiennes dont on a parlé effectivement cette semaine. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça ne résolvait absolument pas le problème, que les déficits n'étaient pas résorbés, qu'ils passaient de 5% à 8%. Et résultat, les Canadiens se sont préparés à l'idée qu'en fait la vraie réforme c'était pas de relancer, c'était de baisser les dépenses publiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu la crise du peso au Mexique. Vers le début des années 90. Et alors là, ça a été une sorte de prise de conscience qu'en fait, un pays très endetté et dépendant des marchés financiers, que ça le rend très fragile à la confiance et que ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Et là, les réformes se sont engagées. Et quelles ont été ces réformes? Elles ont été extrêmement importantes parce qu'en fait, elles n'ont pas consisté à juste faire, vous savez, du bricolage, des rabotages, vous voyez, on va couper des coupes sombres et puis finalement, ça déprime complètement la fonction publique.
C'est plus une politique
publique.
De réinvention de
c'est
l'intervention
C'est une politique
publique.
De réinvention de la... Exactement, vous l'avez parfaitement dit, je ne pourrais pas mieux le dire. C'est-à-dire... on réexamine quel est le rôle, quelles sont les missions de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire impérativement et bien faire, et qu'est-ce qu'il doit laisser à la sphère privée. Et effectivement, ils ont pesé le pour, le contre, etc. Ce qui veut dire que vous avez certains budgets qui ont été diminués, par exemple le budget des transports qui a été diminué plus de 50%. Celui concernant les enfants, lui, a été augmenté. Donc, ça n'a pas été fait de façon complètement
aveugle. Mais Cécile Philippe, alors, moi je vais me faire l'avocat du diable,
bien sûr.
Évidemment. Vous citez effectivement la réussite de cette cette vague de réformes au Canada, avec une croissance retrouvée, ouais, et une croissance de l'emploi également,
absolument,
un budget en excédent. Mais on peut aussi constater que dans l'histoire récente du Canada, c'est le moment de l'exploitation, voire la surexploitation des gaz de schiste, des sables bitumineux, qui ont donné une sorte d'apport considérable à l'économie canadienne, la,
ouais,
rendant
indépendante
énergétique.
Ouais.
Ça remonte quand même à une dizaine d'années.
Oui,
donc c'est concomitant
tout début
de ces réformes.
C'est concomitant de ces réformes, mais en fait, elles n'étaient pas du tout, à l'époque, on n'était pas du tout encore dans ce type de développement. Mais effectivement, et je vais vous dire, je pense que c'est une bonne chose, et que je pense aussi, et vous voyez, ça rejoint la fin de mon livre sur le principe de précaution, je pense que si, aussi en France, on se coupe l'herbe sous le pied avec cette histoire de gaz de schiste.
Oula, vaste débat.
Absolument,
que nous n'aurons pas le temps d'engager
aujourd'hui. Dommage.
Cécile Philippe, merci pour télécharger les carnets d'économie et retrouver les références des publications de nos invités. Je vous donne rendez-vous à la page de l'émission sur franceculture.fr.